Et n'oubliez surtout pas, votez pour le candidat George W. Sarkozy.
En réfléchissant un peu, sommes-nous, nous Français, plus mauvais que nos amis américains qui cherchent à se débarrasser de leur plus nul président qu'ils aient jamais eu pour adopter un tout petit imitateur nommé Sarkozy?
Daniel Mermet et toute son équipe, bonjour, félicitations pour vos émissions. Nous vous signalons que nous aussi nous sommes des prolétaires et nous n'aimons pas les tags, nous n'aimons pas les personnes débraillées et agressives, nous n'aimons pas les trafics de drogue, nous n'aimons pas les dégradations de voitures et autres, nous n'aimons pas le désordre qui mène à rien. Nous sommes aussi des prolétaires et finalement, oui, on est peut-être un petit peu à ce moment-là rétrograde si on aime ça. Est-ce qu'on est rétrograde si on aime ça? Voilà. Toujours est-il que, en tout cas, l'argent que les gens de Neuilly ont reçu de leurs ancêtres ne retire rien à mon fils, alors que le salaire de propagandiste de Daniel Mermet sera effectivement soustrait de nos gains puisque c'est nos impôts. Allez, au revoir.
J'habite Deauville. Ici, on est Sarko à fond. Le slogan, c'est « les faire travailler plus pour nous gagner toujours plus ». Et je vais vous dire, ça a du bon de vivre à côté des riches. Parce que là, on la voit, la France qui travaille. Moi, je les vois, tous ces types formidables, qui jouent au golf des après-midi entières tout en négociant restructuration d'entreprise sur le parcours, qui passent leurs soirées dans les salons des palaces pour discuter business, qui signent des contrats à tour de bras aux terrasses privées des bars de la plage et rentrent épuisés dans leur villa à 1 million d'euros. Faut pas croire qu'ils s'amusent. Non, ils bossent pour gagner toujours plus, eux. Alors faut pas déconner. Ils veulent bien continuer à transpirer sur le golf, à se baffrer de petits fours dans les salons des palaces, à prendre leur 4x4 pour faire 200 mètres jusqu'au bar de la plage et à envoyer leurs femmes se faire botoxer à prix d'or. Mais il faut que vous aussi, petits salariés, vous y mettiez un peu du vôtre. Que vous travaillez plus pour qu'eux gagnent toujours plus. C'est clair, non?
Eh bien, nous voulions simplement vous préciser, nous, habitants de Neuilly, que nous n'attendons qu'une chose, c'est que la France entière ressemble à Neuilly. À tous ces messieurs journalistes d'une gauche complètement dépassée et envieuse, haineuse.
Salut, je viens d'écouter l'émission sur le Sarkozistan. C'est vrai, cette émission, c'est un vrai symptôme. Parce que c'est vrai qu'à ces sketchs, ces gens, ce milieu, cette façon de parler, même moi, j'ai tendance, je le ressens comme ça, Daniel Mermet le ressent comme ça, mais même moi aussi, c'est un vrai symptôme, ça. C'est-à-dire ces gens qui vivent dans le luxe avec de l'argent, qui parlent correctement français, qui sont calmes, dans un environnement sécurisé, avec des enfants bien élevés, qui s'habillent bien, dans de bonnes écoles, des murs unis sans tags. Ça nous choque. Ça nous fait presque rigoler. C'est incroyable. On en est arrivé à un point de dégradation sans même en avoir conscience que lorsqu'on écoute des gens parler dans cet environnement, ça fait tâche. C'est incroyable. La France de laquelle on s'est habitué, c'est la France de Abdelatif Kechiche dans le film L'Esquive. Vous avez vu ce film? C'est cette France-là qui nous plaît. C'est la France de demain. Et la France de Neuilly, elle est en train de disparaître. Cette France de toujours, de laquelle on aimerait bien tous faire partie, c'est un vrai symptôme. Hein.
Des vertes et des pas mûres dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Merci à tous, tout de même. Merci à tous nos AMG, auditeurs modestes et géniaux. Aujourd'hui, on va prendre de la distance, on va prendre un peu de recul. Et comment qu'on va faire pour prendre de la distance et du recul? Eh bien, en partant pour hier et ailleurs. Hier, c'est le temps de Dostoïevski, c'est le temps de Saint-Pétersbourg, voilà pour l'ailleurs, mais c'est un Saint-Pétersbourg d'hier, celui de Dostoïevski d'une part, et le nôtre aussi, puisque c'est un reportage que nous vous représentons aujourd'hui, qui date, je crois, de 1993 ou 94, une balade dans Saint-Pétersbourg, le Saint-Pétersbourg de Dostoïevski, j'aurais dû dire de Raskolnikov. Voilà, une balade. Et auparavant, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, ça chauffe.
Bonjour. J'étais une petite fille quand les événements de 68 se sont déroulés. Mais j'ai encore en mémoire les visages tourmentés de mes parents. Des semaines sans travail, la famille à nourrir. Quel courage. Alors, sur votre antenne, ce matin, quand j'ai entendu au petit déjeuner des fragments du discours de Nicolas Sarkozy concernant cette période, le café, il a eu du mal à passer. Et je me pose la question suivante. Comment les anciens ouvriers, tous ces retraités qui ont fait tant d'efforts pour nous, peuvent se laisser leurrer à ce point? Et j'ai mal.
Oui, salut Daniel, salut c'est Paul. Voilà, on est dans une drôle de république où un homme candidat à l'élection présidentielle peut faire interdire un débat entre deux personnes du centre ou du Parti socialiste. Il est remarquable de voir que les grands médias se sont couchés, et c'est pas la faute du CSA. Il faut, comme à Radio Londres, chercher la bonne fréquence pour écouter le débat. Ce n'est pas démocratique. Il y a du Poutine en Sarkozy. Voilà, salut, et j'espère que les électeurs vont bien en tenir compte.
Une liesse presque populaire secoue le siège du MEDEF en cette rentrée. Les patrons français se congratulent, s'embrassent. La vie pour ces braves gens ne sera plus jamais la même. En effet, alors que les Français bronzaient sur les plages, des mesures ont été adoptées et des lois ont été abrogées pendant les vacances. Des changements qui, sans doute, ne valaient pas la peine d'embêter les Français qui avaient de toute façon la tête ailleurs. L'accord sur la corruption légale et le commerce inéquitable, la multiplication des prisons, la suppression de l'ISF, la suppression du droit du travail, la destruction du droit syndical, la réduction des bas salaires, l'annulation de la couverture santé, la dépénalisation des drogues dures pour les hauts fonctionnaires de l'État, le permis de tuer la racaille, l'envoi de troupes françaises en Irak, le rétablissement de la peine de mort, etc., etc. Le président Sarkozy, plus bronzé et souriant que jamais, a confié aux journalistes que ses vacances lui avaient fait le plus grand bien, que même si la canicule de cet été a fait, il est vrai, quelques dizaines de milliers de victimes chez les pauvres, rien ne pouvait lui faire plus plaisir que cette loi qui prévoit de dissoudre la Ligue des droits de l'homme.
Salut, c'est Cédric de Bretagne. J'espère que cette fois, vous aurez la place pour annoncer à tout le monde qu'on fait donc un repère là-bas si j'y suis, jeudi 3 mai à 21h au Billabong Café, 81 rue Georges Clémenceau. C'est à Auray, dans le Morbihan. Voilà, à 21h là-bas si j'y suis. J'espère que nous serons nombreux. C'est important, on est entre les deux tours jumelles. Voilà, merci, ciao.
Oui, salut Daniel Mermet, oui, allô, la radio gauche qui pue, parce que là on peut vraiment parler de ça en ce moment, quand on vous écoute, c'est affligeant. Aujourd'hui, un reportage sur Neuilly-sur-Seine, un reportage qui date de je ne sais quel automne, 2006, 2005, 2004, on ne sait pas, brûlante actualité en tout cas, comme si Nicolas Sarkozy représente à lui seul Neuilly-sur-Seine, hein. J'imagine que Neuilly était déjà Neuilly avant Sarkozy, donc je trouve que c'est vraiment de la désinformation et ça pue la merde, quoi, vraiment, vos reportages. Vous auriez pu parler de Rostropovitch. Rostropovitch, il est vrai, a défendu Solzhenitsyn ou Sakharov. Alors ça doit sans doute vous gêner, parce que c'était des gens qui défendaient la liberté. La liberté, oui. Pas le communisme, c'est sûr. Allez, salut.
Le code du travail risque d'être fort malmené si l'inquiétante rupture tranquille du candidat Sarkozy l'emporte le 6 mai. Catou, une AMG habituée de toujours du repère de Limoges et inspectrice du travail, viendra nous en parler, ainsi que des problèmes liés à sa profession, mercredi 2 mai à partir de 18h30, toujours au Woodstock Boogie Bar, 18 rue Montjovi, à Limoges. En attendant, n'oubliez pas la manif du 1er mai. Et si vous êtes à Paris, l'hommage à Léo Ferré au Trianon, boulevard de Rochechouart à 19h, avec plein de gens qu'on aime, Francesca Soléville, Serge Girouillot, Yvan Dautin, etc., etc. De quoi nous donner du cœur à l'ouvrage pour attaquer la dernière ligne droite.
Добрый день.
C'est Daniel Mermet et Zoya Varier, Saint-Pétersbourg, si j'y suis.
flight number 2.
D'abord, l'aiguille d'or de l'amirauté dans un immense ciel bleu glace. On s'extasie et alors Dimitri allume son clope qui pue. Chapka, renvoi de vodka, pisse et palais, ça sent l'âme slave et c'est bon. Sublime et dégueulasse, sainte et crasseuse, en loque et pompeuse, Saint-Pétersbourg. Petrograd, Leningrad ou Saint-Pétersbourg, aucune importance. Elle s'est toujours appelée Peter. Les bottes plantées dans la neige sale et gelée, il fait moins 18 degrés, c'est d'abord un éblouissement. La Neva, immense, géante, gelée. Et là-bas, là-bas, très loin, entre le palais d'hiver et la forteresse Piripol, plus loin encore que le croiseur Aurore, dans cette blancheur, un point, minuscule, une silhouette, noire, quelqu'un qui marche dans cette immensité, seul qui marche. Quel destin, quelle destinée, quelle Russie, quel Russe. Que faire? Mais un homme qui marche, comme n'a jamais cessé de marcher le métronome pendant les 900 jours du siège. Métronome, cœur de Saint-Pétersbourg. Que faire? Que faire? Que faire? Effondrement, chaos, naufrage, désintégration. Est-ce qu'on a déjà touché le fond, Dimitri, ou pas encore?
Он шел дорогой, тихо и степенно, не торопясь, чтобы не подать таких подозрений. Мало глядел он на прохожих, даже старался совсем не глядеть на лица и быть как можно неприметнее. Тут вспомнилась ему шляпа. Боже мой, и деньги были третьего дня, и не мог переменить на фуражку. Проклятие вырвалось из души его. Заглянув случайно одним глазом в лавочку, он увидел, что там...
Une fois dans la rue, il se mit à marcher tranquillement, sans se hâter, de peur d'éveiller les soupçons. Il ne regardait guère les passants et s'efforçait même de ne fixer les yeux sur personne et d'attirer l'attention le moins possible. Soudain, il lui revint de son chapeau. « Seigneur, dire qu'avant-hier, j'avais de l'argent et que j'aurais pu l'échanger contre une casquette. » Dostoïevski. On peut rentrer dans Saint-Pétersbourg par mille portes. Cette ville ensiégée est la ville la plus ouverte aujourd'hui pour l'imaginaire, pour votre imaginaire. Vous pouvez venir avec vos rêves, révolutionnaires, impériaux, littéraires, tout ce que vous voulez. Cette ville nous renvoie à nous autres Européens, et sans doute bien au-delà de l'Europe, à toutes les imaginations et à tous les imaginaires. Cette ville qui a été préméditée et abstraite, comme disait Dostoïevski, est une ville imaginée et donc une ville qui reste merveilleusement, extraordinairement imaginaire aujourd'hui.
Je viens que vous regardez la cour d'ici. C'est la cour typique pour Saint-Pétersbourg. Tu vois, il est carré, il est petit, ça ressemble vraiment à un puits. Mm-hmm. On même dit que la cour puits. On utilise ça, et ça existe plutôt qu'à Saint-Pétersbourg. Et même quand on parle de cours comme ça, on dit souvent que cours Dostoïevski, ça veut dire que c'est le cours puits.
D'abord littéraire la ville, bien sûr. On aurait dû commencer par Pouchkine. Mais je ne sais pas pourquoi. Pouchkine me touche moins. Je connais moins bien aussi. Je me sens moins proche de Gogol aussi. On aurait pu commencer. Mais je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est Dostoïevski. C'est cette errance les personnages de Dostoïevski. C'est Gide qui parlait de l'humanité pantelante des bouquins de Dostoïevski. Il y a toute cette ville, si on la regarde d'une certaine façon, on peut la regarder autrement. Selon qu'on se tourne d'un côté de l'autre, selon qu'on a telle ou telle humeur, telle ou telle âme, il faut dire, on voit la ville tout à fait différemment. Mais très vite, les images nous rattrapent. Et est-ce qu'on n'est pas déjà dans un roman de Dostoïevski? Là, on est le long du fleuve, c'est la Neva qui est derrière nous, et le long du trottoir, dans la glace, les pieds dans la glace, arrêtés. Il y a des gens qui sont debout et qui hurlent. C'est qu'en face, il y a une énorme bâtisse qui est vraiment décrite, on dirait qu'elle a été décrite par Dostoïevski, elle a sans doute été, c'est la prison de Saint-Pétersbourg. Derrière moi, c'est la Neva, et devant, c'est la prison des Croix. La prison de Saint-Pétersbourg. Et c'est assez hallucinant comme spectacle. Une prison en briques rouges, noires, dégueulasses, des grilles. Et une tourelle au milieu, une cheminée. Une cheminée comme une cheminée d'usine qui fume des oiseaux qui passent des... Et là, sur le bord du fleuve, donc de l'autre côté, on entend les bagnoles. Les voitures passent sur cette berge, et là où nous sommes, il y a des gens qui appellent les détenus. On voit là-bas les détenus, les gars qui sont en tôle, qui font des signes par les fenêtres. Il y en a un qui brandit, qui tend le bras, qui tend un drapeau, enfin un chiffon pour faire signe qu'il est là. Et là, à côté de nous, il y a des gens qui les appellent, qui crient, qui leur disent quelque chose. Et c'est comme ça qu'ils essayent de... Mais là, évidemment, comme on s'approche... Voilà, Madame, qu'est-ce qu'ils disent?
Можно у вас спросить? У вас есть кто-то внутри, да?
Да.
Ils ont quelqu'un qui est en prison?
Кто это?
Муж. Будущий муж, жених.
C'est mon futur mari qui est là, dans la prison.
Ah. Il est où? À quelle fenêtre il est?
Он где находится?
На самом верхнем этаже.
Il est au dernier étage, tout en haut. А где окно?
А в самом углу.
Là-bas, c'est la dernière fenêtre au dernier étage.
On le voit là-bas?
Это его голова вот там, да? Это он?
Нет, голову не видно, только руку.
On voit juste sa main, on voit pas sa tête.
Là-bas?
Ouais.
C'est lui. Là, il y a quelqu'un qui a lancé. Voilà une flèche qui vient d'arriver. Ça, c'est une flèche. Voilà. C'est une sarbacane. Elle vient de recevoir quelque chose dans une sarbacane. Le gars a soufflé. Il a réussi à viser jusque-là avec une précision incroyable. Elle ouvre le message sous nos yeux. Ça se passe sous nos yeux. Et elle ouvre le papier. Il y a un petit mot dedans. Elle les donne à sa maman ou à sa copine, je ne sais pas. Et nous, on regarde, on est très indiscret à la regarder. T'as regardé, Zoé? C'est extraordinaire, ça. Le gars visé avec la sarbacane. Ils ont des sarbacanes et ils arrivent à viser avec une précision extraordinaire.
Ada? Il m'a demandé de l'argent. Des questions financières, le petit mot, c'est pour des petits problèmes d'argent.
Comment on peut envoyer de l'argent là-bas?
А как вы можете ему передать деньги?
Я точно не знаю, это мне потом объяснит, но вроде бы как передаются как бы дорога.
Derrière nous, il y a des mouettes énormes qui passent et la fumée.
Je ne sais pas exactement encore comment je vais pouvoir lui faire passer cet argent. Il va m'expliquer justement, mais on va y arriver, on va trouver un moyen.
C'est extraordinaire qu'il a. Comment il fait pour viser aussi précisément?
Как он может точно отправить вот это?
C'est extraordinaire ça. Ça c'est le papier. Regarde ça, il y a un poids. C'est fait avec quoi? Avec du pain. Le poids, il y a un poids qui est fait. Il y a le poids de la flèche qui est mise dans la sarbacane pour que c'est du poids, c'est de l'aplomb, c'est fait avec de la mie de pain. C'est-à-dire que les gars à la cantine de la prison, ils font ça avec du pain, avec de la farine, ils mettent ça autour d'un papier, très très serré, il y a un petit bout de bois dedans, et dedans ils mettent un message, et voilà avec quoi ils font une flèche. Garde ça parce que c'est trop beau, c'est trop précieux. Est-ce que vous l'avez vu? Vous pouvez aller dans la prison, le voir? Vous avez...
Non, j'ai pas le droit d'aller le voir en prison, seulement les parents ont le droit de visite.
À en juger par l'allure de la prison et ce qu'on voit aux fenêtres, on voit les ordures, ça a l'air absolument dégueulasse. Ils doivent vivre dans des conditions épouvantables. Ils arrivent à parler, hein, quand les voitures ne passent pas. Il y a de la glace qui pend des... Il y a un gars qui montre un bras avec un chiffon blanc. Il espère qu'on le voit. Il y a des choses qui sortent des fenêtres, c'est peut-être ces sarbacanes là. Il y a des filets. Tu sais, il y a des filets pour pas que les gars visent. Hein. Il y a des filets là. Et dans les filets, maintenant on voit mieux au-dessus du mur d'enceinte de la prison, du mur extérieur, dans le filet, il y a des messages comme ça, des fléchettes de papier en quantité qui sont coincées dans les filets. Et là, le long du poteau, au pied du poteau, il y a des bouteilles de vodka que boivent les gens qui attendent et qui essayent de parler avec les leurs. Derrière la neva est gelée, pas entièrement gelée, des gros blocs de glace et de neige le long du fleuve. C'est une humanité plus fantastique que celle qui peuple la ronde de nuit de Rembrandt, et peut-être pourtant n'est-elle fantastique que de la même manière par l'éclairage et le costume, et est-elle au fond courante. Vous savez qui écrit ça? C'est Proust qui, dans La Prisonnière, écrit ça. On est très littéraire aujourd'hui, mais c'est Saint-Pétersbourg qui excuse ça. C'est Proust qui écrit ça dans La Prisonnière au sujet de Dostoïevski. Et la première chose qui vous frappe à Saint-Pétersbourg, c'est la lumière. On parle toujours de lumière. Dans tous les endroits du monde, il y a une lumière extraordinaire. Mais là, c'est vrai. Là, pour une fois, c'est vrai. Il y a à la fin du jour une lumière qui frise, qui frôle comme ça et qui donne aux choses, aux gens, aux rues, aux visages, à l'infini, une ambiance très particulière, une image très particulière. Il y a les fameuses nuits blanches au mois de juin où le soleil ne se couche pas tout à fait, où il y a une sorte d'aube comme ça qui s'installe dans la nuit et où, paraît-il, plus personne n'a d'ombre, ni même les ponts qui se lèvent pour laisser passer les gros bateaux qui rejoignent la Baltique, la mer, etc. On rêve beaucoup, mais c'est extraordinaire cette idée de Proust. Malraux aussi a fait un rapprochement entre Dostoïevski et Rembrandt. Et à l'Ermitage, il y a le plus beau Rembrandt que vous puissiez voir au monde. Et curieusement, les personnages de Rembrandt, tout d'un coup, vous les voyez avec cette lumière qui baigne Saint-Pétersbourg. Et vous pensez, si vous voulez, qu'au départ, Pierre le Grand s'était inspiré des canaux d'Amsterdam pour construire cette ville. Il a abandonné le projet, ça ressemble pas du tout à Amsterdam. Mais il y a tout un tas d'analogies comme ça entre cette prison que nous venons de voir, cette peinture particulière quand même des hommes, Dostoïevski, Rembrandt et cette ville. Alors, on va se balader sur les pas de Dostoïevski, en tous les cas de Raskolnikov. Dostoïevski était une précision extraordinaire dans ses romans. Il a pris des quartiers, des rues, des porches, des cours, si bien que, vous l'avez entendu, il y a certaines cours qu'on appelle des cours Dostoïevski à Saint-Pétersbourg. Et tout ça est d'une précision telle que les amoureux de Dostoïevski, évidemment enflammés, comme nous sommes tous, peuvent retrouver dans certains quartiers de Saint-Pétersbourg, les traces, les marques, les rues, les escaliers, les poignées de portes encore intactes et que le grand Dostoïevski a dépeintes dans ses livres. Et c'est ce qu'on va faire sur les pas de Raskolnikov. Entre le moment où Raskolnikov quitte sa mansarde, où il va tuer l'usurière, souvenez-vous, eh bien il effectue, selon les uns, 800 pas, selon les autres, 730 pas, selon les endroits du livre. Et ce quartier se situe entre la place du Foin, derrière la cathédrale Saint-Nicolas, et le long de l'actuel canal Грибоедов.
On peut dire que le Pétersbourg de Dostoïevski, c'est un espèce un des arrondissements de Saint-Pétersbourg, de Leningrad. Et c'est bien que l'un côté, c'est l'arrondissement qui se trouve dans le centre, mais l'autre côté, c'est l'arrondissement qui n'est pas du tout touché par les constructions de socialisme ou de communisme. C'était resté presque dans les mêmes états quand il était en 19e siècle. Par exemple, ça, maintenant, nous sommes dans le bâtiment où un des plus célèbres héros de Dostoïevski habitait. C'est la maison où habitait Rodion Raskolnikov de Crime et Châtiment. C'est la description complètement exacte de cette porte.
C'est la porte à droite. Et c'est exactement la même porte.
C'est la même porte.
Ah, c'est extraordinaire.
C'est la même porte, c'est la même cour. Rien n'est changé dans le cour, sauf qu'il y a des voitures maintenant. On prend l'escalier. C'est un escalier jusqu'au troisième étage. Et là-bas, au troisième étage, il y a le petit escalier. C'est exactement comme c'était décrit dans le roman. Et si on prend cet escalier, nous pouvons voir le tout petit chambre. C'était le chambre où Raskolnikov est habité. Il est encore là.
Et vous savez pourquoi on est là? Pourquoi les touristes viennent ici?
Bien sûr qu'on le sait. Regardez là. La mansarde là-haut.
Raskolnikov там жил.
C'est là où a vécu Raskolnikov.
Et vous êtes fier d'habiter là?
Bien sûr.
Raskolnikov passait là. Là où nous sommes.
Oui, absolument.
Physiquement.
Chaque jour, quelques fois par jour.
Oui.
Et même quand il a quitté cette place pour aller tuer une bonne femme qu'il a tuée finalement, il est passé par là.
Donc on est sur les pas.
On est sur les pas, d'ici jusqu'à la maison où la vieille usurière Alyona Ivanovna est habitée.
Donc là, il est sorti par ce porche, il s'est retrouvé dans cette rue qui n'a pas changé.
Oui,
il est allé où, à gauche, à droite,
à droite? À droite.
À droite par ici?
Oui, il tourne à droite, il vient jusqu'à la fin de la rue, il traverse le pont, on voit qu'il traversait, il traverse le pont, il tourne à droite. Il continue, il y a le petit fleuve par le canal. C'est, le canal, c'est aussi utilisé beaucoup par Dostoïevski dans ses livres. Donc il tourne par le canal jusqu'à deuxième rue. Là-bas, il tourne à droite. Et à la fin de cette rue, il y a le bâtiment où l'usurier est habité.
Alors là, je marche dans les pas de Raskolnikov. Est-ce qu'il a vu la même chose? Est-ce qu'il a vu ce que je vois là? Les murs jaunes avec des poubelles, là, à l'entrée d'une cour, c'est absolument dégueulasse, c'est sordide. Là, il y a un car, un vieux car soviétique qui se barre en ruine. Là, il y a une dame qui a failli prendre un paquet de glace sur la figure, là, mais elle passe tout à fait indifférente. Les rues sont boueuses, neigeuses, les fonds de cour là-bas, neigeux. Une dame avec une canne. La glace par terre, là, des espèces de roulottes. Une avenue large avec du soleil. Comme ça, les bas des gouttières cabossées avec des giclures de glace comme ça qui sont pris dedans. Tout ça, c'est assez crado, c'est assez sale. C'est boueux. C'est une patine, des cours encore. Voilà une cour qui s'en va par là avec un tas d'ordures. Le 24. Voilà, Raskolnikov marche. Des gens, des femmes avec des sacs, toujours des sacs. Des sacs à provision. Et là-bas, il y a ce matériel qu'on trouve, ces espèces de trucs de ferraille, sorte de grue, de ce qui traîne toujours comme ça. La Porsche, car déglingué. Là, on arrive.
На душе скребутся кошки, кто сумеет нам помочь и прогонит кошек прочь. Это знает всякий, это не слова, предание собаки, нету существа. Предание собаки, ласковей собаки веселей, собаки, нету существа. Если кто-нибудь решится на хозяев покуситься, вот умеет рядом
стать.
Грибоедова.
Это канал Грибоедов.
Раскольников est passé par ici.
Ходил.
Il est passé là. Il a marché là.
Qu'est-ce qu'il allait faire?
Bill свою процессию.
Il est passé par là pour aller tuer cette vieille usurière.
C'est не подъедческая, дом 15.
Vous voyez, elle habite. Faut continuer тут droit là et au прошлый pont vous tournez.
Очень красивое здание, вот оно, угловое.
Вот так. Faut qu'on aille tout droit et qu'on prenne la deuxième.
Вы можете зайти.
Et puis il y a un très très bel immeuble où il faut absolument qu'on rentre dedans parce que c'est très très
Vous
joli.
Vous можете зайти туда в середину и посмотреть здание Екатерина. Балы устраивали.
Et on va passer devant l'endroit où elle faisait les balles, la Catherine la Grande, Catherine II. Il faut absolument rentrer et aller voir ça.
Ok.
Откуда я знаю, я работала в этом сейчас здании. А я там работала.
Moi je sais tout ça, c'est parce que moi j'ai travaillé là-bas. Dans cet immeuble-là, c'est pour ça que je peux vous dire ça.
Dans quel état il était Raskolnikov quand il marchait sur ce pont?
Бреду, il est pas давлен.
Pas давлен,
il était fatigué, il délirait. Il délirait.
Стараясь развязать снурок и обратясь к окну, к свету, все окна у ней были заперты, несмотря на духоту. Она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем, а только придерживал правую рукой под одеждой. Руки его были ужасно слабы. Самому ему слышалось, как они с каждым мгновением все более немели и деревенели. Он боялся, что выпустит и уронит топор. Вдруг голова его как бы закружилась. «Да что он тут навертел?» – с досадой вскричала старуха и пошевелилась в его сторону. Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его.
Он ложит. Он опасил пон. Он ложит канал. Я не знаю, как он опасил. Есть ли он взял тротуар с левой, есть ли он взял тротуар с правой? Это тяжело. Est-ce que c'est bien par là que Раскольников est passé?
Дом Раскольникова, где он убийство совершил. Это вот вам нужно вот туда пройти.
Vous savez pour aller, je vais vous montrer la maison où il a tué la vieille, c'est là-bas, c'est de l'autre côté, c'est là-bas.
Значит, вот дом, где Раскольников совершил преступление, да.
Le lieu où Raskolnikov a fait ce crime, hein, le crime de Dostoevsky, on parle bien de Dostoevsky.
Oui. Значит, пойдемте,
Je vais vous montrer, c'est de l'autre côté.
Машинально опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила. Старуха, как и всегда, была простоволосая.
Un coup d'œil jeté par hasard dans une boutique lui apprit qu'il était déjà 7h10, il n'avait pas de temps à perdre. Pourtant, il ne pouvait éviter de faire un détour afin de contourner la maison et d'entrer du côté opposé. Lorsqu'il lui arrivait naguère de se représenter d'avance la situation où il se trouvait à présent, il pensait parfois qu'il se sentirait fort effrayé à cet instant. Mais il vit qu'il s'était trompé. Au contraire, il n'avait pas peur du tout. Des pensées qui ne se rapportaient nullement à son entreprise occupaient son esprit. Mais elles étaient brèves et fuyante. Quand il passa devant le jardin Yusupov, il pensa qu'on ferait bien d'établir des fontaines monumentales sur les places pour rafraîchir l'atmosphère. Mais il en vint à se persuader peu à peu que si le jardin d'été s'étendait jusqu'au champ de Mars et allait même rejoindre le jardin Michel, la ville y trouverait grand profit, assurément.
Улица, значит, называется она, значит, угол Гражданской и
à l'angle de la rue да, Гражданский
и Приживальского.
Приживальский.
Дом, да.
Là à l'angle вот, de ces deux rues, il y a une maison.
А вообще здесь.
Mais c'est vrai qu'ici, да. Là, tout ce coin-là, c'est lié à Dostoevsky.
Да, все здесь связано с ним.
Tout est lié à lui ici.
Et ça vous plaît?
Я Достоевского хуже знаю, чем других, понимаете? Ну очень, но
connais moins bien Достоевский que les autres.
Меньше, чем других знаю. Ну, я считаю, что это наша национальная гордость.
Mais je pense quand même que c'est notre fierté nationale.
Всего вам хорошего, счастливо, да.
Спасибо.
On va demander au beau militaire, là. Attends.
Est-ce que vous savez si c'est par là que Raskolnikov est passé?
Vous savez, ils ont trouvé à cette...
Non, je sais. C'est un peu difficile pour moi, ce que vous me demandez. Vous ne savez pas, hein? Je sais pas.
Madame, va demander à la dame.
Madame, bonjour,
la babouchka qui promène le petit garçon qui joue dans la cabine téléphonique. Est-ce que c'est bien par ici que Raskolnikov est passé?
Тихо, Дима. Туда, вот туда, туда, да, Львиный мостик. Да, туда.
Львиный мостик. Et vous allez voir, vous allez avoir un pont.
Mais tout le monde sait ça.
Да, конечно.
Bien sûr que tout le monde sait.
Et ça vous fait pas peur de penser des fois qu'il est passé par ici?
Нет, не страшно.
Мы
видели, когда пережили, видели смертей много, что нам Раскольников.
Qu'est-ce que c'est pour nous Raskolnikov? Nous avons vécu le blocus, nous avons vécu des choses mortelles. Alors qu'est-ce que c'est pour nous?
Vous avez vécu le blocus vous?
Да, всю блокаду я была здесь, да.
Pendant le blocus.
Да, вот видите, у меня удостоверение блокадника.
Regardez, j'ai une carte qui prouve que j'ai vécu ici pendant le blocus.
Да. Mais vous étiez très jeune?
Мне было 14 лет.
J'avais 14 ans.
Écoutez, on dit une chose incroyable, c'est que il y a des gens qui ont mangé des gens et des cannibales, du cannibalisme. Est-ce que c'est vrai ça?
Да, я даже не знаю, но я не видела таких случаев.
Moi, je ne sais pas, mais j'en ai pas vu. Moi, j'ai pas vu de cas comme ça.
Говорили, но я
лично
не видела.
On a parlé de ça, mais moi personnellement, je n'ai pas vu ça.
Et vous avez survécu?
Да, пережили. Но я пережила, я попала в больницу для дистрофиков, и там мне было легче пережить.
J'ai survécu, c'est sûr, j'ai survécu, mais je me suis retrouvée à l'hôpital tellement j'étais maigre, dystrophiée. Et là, ça a été plus facile de survivre une fois que j'étais à l'hôpital.
Et grâce à quoi vous avez pu survivre?
On pensait seulement au pain, on pensait seulement à ça. On pensait à manger. Je pensais, on était des enfants à ce moment-là, et moi je pensais au pain, je pensais à ça, je pensais qu'on en aurait plus.
On continue.
До свидания.
До свидания.
Давай, мой маленький, пойдем.
Vous voyez ce bâtiment juste en face de nous, numéro 1?
Oui, 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 oui.
C'est écrit en ancienne russe, avec les lettres qu'on a utilisées ici, même avant la Révolution. C'était écrit le négocier du vent de frère Andreïev.
Comment se fait-il que ça a été préservé? Rien n'a été touché.
Je pense que plutôt c'est grâce au pouvoir soviétique qui a décidé d'habiter à Moscou. Quand ils ont quitté la ville, ils n'ont pas vraiment le détruire. C'est ça ce que le plutôt préserver cette ville, je pense. Parce que Moscou vraiment est beaucoup, beaucoup plus détruite que Saint-Pétersbourg. Bien sûr, il y a des places qui ont détruit même ici. Malheureusement, il y a des églises qui n'existent plus, il y a des bâtiments qui n'existent plus. Mais vous voyez, tout ce quartier, il n'y a que des immeubles vieux.
Alors revenons à notre héros. Il a tourné...
Non, il ne tourne pas, il continue.
Mais ça, c'était pour voir ce magasin qui n'a absolument pas bougé, qui est au ras de la rue comme ça. Ça n'a pas changé.
Il continue. Ouais, ouais. Ici, c'était la région des petits marchands, comme ses frères Andreïev, par exemple. Des petits putes peut-être. Il y a une grande place pas loin d'ici qui s'appelle Sennaïa Plochit. Ça s'appelle la place de foin. Ça veut dire que ce sont des péquenons qui sont venus de Tours, de Saint-Pétersbourg, qui sont venus pour vendre et pour acheter quelque chose à cette place. Et encore, ça garde son nom.
On va demander au jeune homme.
Bonjour, on va se passer une minute.
Est-ce que c'est bien par ici, monsieur, que Raskolnikov est passé?
Moi, je voulais vous dire que Raskolnikov est Достоевского, да, Романа Достоевского.
Там же площадь Мира. Не в эту сторону, а в другую. Вы перепутали.
Vous êtes trompé, vous devez aller dans l'autre sens.
c'est dans l'autre sens qu'il est allé. Мы перепутали, да?
Да, да, да.
On s'est trompé.
Вот там площадь, Сенная площадь находится, так?
Et là-bas, il y a la place du Foin, justement.
On continue, on continue. On va demander à monsieur.
Можно у вас спросить?
S'il vous plaît.
Vous parlez français?
Oui, je parle français.
Formidable.
Oui.
On voudrait savoir si c'est bien par ici que Raskolnikov est passé.
Je pense que par ici, parce que cette rue, c'est aussi Raskolnikov va chez cette femme, vieille femme qui voulait prendre d'argent.
Oui.
Voilà, et toutes ces rues, la maison là, partout, c'est flâner Raskolnikov. Il y a longtemps déjà.
Il y a longtemps déjà.
Oui.
C'est le quartier Dostoïevski ici.
Oui, c'est ça, c'est le quartier Dostoïevski. Voilà, cette Padiacheska, là-bas, petite Padiacheska, si grand Padiacheska, comment, Sredne Padiacheska, en russe.
Oui, oui.
Oui, c'est...
Alors ça veut dire que le fantôme de Dostoïevski continue d'habiter.
Oui, certainement. Et surtout pendant les nuits blanches.
Ah,
c'est surtout, c'est toujours, la ville prend l'air peut-être un peu pittoresque, un peu
fantôme.
Oui, de fantômes partout, parce qu'il n'y a pas de l'ombre, toujours. Et dans ce temps, tout le monde pense que c'est les héros de Dostoïevski qui flânent dans les rues sur le quai des canaux.
Et vous y croyez, bien sûr.
Oui.
Vous y croyez, bien sûr, vous êtes russe.
Oui. Mais je suis venu de Paris seulement. Voilà. Okay.
Allez, on va continuer la route. On continue, on poursuit Raskolnikov.
Ah. Au revoir.
Merci. À bientôt.
À bientôt, peut-être à Paris, en France.
Под на пол, подле мертвой, тотчас же полез ей в карман, стараясь не замораться текущей кровью. Тот самый правый карман, из которого она в прошлый раз вынимала ключи. Он был в полном уме. Затмений и головокружений уже не было, но руки все еще дрожали. Он вспомнил потом, что был даже очень внимателен, осторожен, старался все не запачкаться. Ключи он тотчас же вынул. Все, как и тогда, были в одной связке, на одном стальном ручке. Тотчас же он побежал с ними в спальню. Это была очень небольшая комната с огромным киотом образов. У другой стены стояла большая постель.
L'entrée d'une cour là-bas, la couleur jaune, la neige sale au fond de la cour. Et là, le bâtiment est complètement peint dans un rouge, rose, un rouge un peu tombé comme ça. Un peu, ça très très beau. Un petit pont sur le canal avec des lions, une neige sur les vitrinières, les lumières des lions, qui sont vraiment peints d'un rose très très pâle, très tombé comme ça. Et derrière, il y a le pignon d'un bâtiment qui est peint en vert. Vert pâle, vert tombé, comme ça, c'est un ensemble pastel, comme ça. Ah, mais c'est étonnant. La neige sale, les gars qui sortent de l'école, du soleil, à travers les arbres, il fait très très froid, c'est vraiment magnifique. Alors que, on est dans la fièvre, on est dans l'exaltation, on est dans l'excitation, on est dans la perte de la raison de Raskolnikov pour aller tuer la vieille.
Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах.
Ils voulaient parler, mais ne purent prononcer un mot. Des larmes brillaient dans leurs yeux, tous deux étaient maigres et pâles, mais sur ces pauvres visages ravagés brillait l'aube d'une vie nouvelle, celle d'une résurrection. C'était l'amour qui les ressuscitait. Le cœur de l'un enfermait une source de vie inépuisable pour l'autre. Ils décidèrent d'attendre et de prendre patience. Ils avaient 7 ans de Sibérie à faire.
Tu as vu tout ce temps, j'ai compté des pas. Oui. Ici, pour moi, c'était 813, un peu plus que pour Raskolnikov. Et on entre à la maison d'Illusière.
De l'Usurière.
Maintenant, au numéro 15.
Ah, donc il est passé par ici. Ça devait être la même odeur.
Ah, peut-être.
La même couleur.
La même poubelle.
La même poubelle.
Et on tourne par là.
Un peu jaune. Les murs jaunes. Et on entre là. Et là, on peut entrer. Il y a un gosse qui... Bonjour. Добрый день.
Здрасте.
Je pense que, que les pierres de l'escalier sont les mêmes. Peut-être la peinture des murs a changé, mais pas beaucoup de temps. Si je me souviens bien, c'était au troisième étage russe, ça veut dire deuxième étage français. C'est encore un étage. Dostoïevski, c'était là.
Tu crois que c'est là?
Oui, oui, il me semble que c'était là. Tu entres le palais, c'était à gauche, si je me souviens bien. Je peux vérifier peut-être dans le roman.
On va demander à la dame. Bonjour.
Bonjour, merci. Je peux vous parler? Dostoïevski a написал книгу «Преступление и наказание». Читали, наверное, да?
Dostoïevski a écrit le livre «Crime et châtiment». Vous le savez, non?
Читали, да?
Vous l'avez lu?
Вот она писала этот дом. Эту парадную, этот подъезд точно.
Et il a décrit exactement.
На четвертом этаже.
Il a écrit exactement cette maison, ce palier, les paliers et l'intérieur de cette maison. Et ça s'est passé au-dessus, au quatrième étage.
Там студент Раскольников убил старуху.
Et là, c'est là, au-dessus, que Raskolnikov a tué l'usurière.
На четвертом этаже.
Au quatrième étage au-dessus.
Но это описано, вот именно наш дом описан. Et, именно это парадная.
Et notre maison est décrite exactement dans le livre.
Четвертый этаж.
Et cet escalier aussi.
Еще повыше.
Et qu'est-ce que ça vous fait de vivre, c'est particulier de vivre là quand même?
Тут, значит, все спрашивают, сюда постоянно ходят. Значит, спрашивали, здесь ли убил?
Moi, au début, quand j'ai habité ici, tout le monde me demandait, c'est bien ici que Raskolnikov a tué la vieille usurière.
Этот дом построен в 1798 году.
Cet immeuble a été construit à la fin du 18e siècle.
Его два раза перестраивали, этот дом. Два раза перестраивали.
On l'a refait deux fois, cette maison-là, cet immeuble.
Есть еще такая легенда, ну это как бы легенда.
Et il y a une légende qui dit que...
Значит, сюда бегал Пушкин, ну молодой, как тёрка.
Ну,
молодой
Пушкин.
Молодой, молодой.
Quand il était jeune,
такой вот.
Il était un petit peu comme ça.
Любвеобильный.
Il aimait l'amour.
Dans quel état il était Raskolnikov quand il est arrivé là, quand il monte les escaliers, là il monte les escaliers, il a tué l'usurier. Dans quel état il était?
Кажется, он был очень беден, студент бедный был.
Moi j'ai l'impression, je pense que c'était un étudiant qui était pauvre, il était très pauvre.
У него был такой духовной жизни, как бы вот.
Il avait une vie spirituelle.
Ну, как бы сказать, он очень много голодал.
Il avait très faim, il était très affamé. Il vivait dans une toute petite chambre.
Ну, Достоевский описывает, у него комната была такая длинная.
Et Dostoevsky l'a décrite d'ailleurs, c'est la chambre dans laquelle il vivait. C'était une longue pièce comme ça, très étroite, avec une toute petite fenêtre. Il y avait très peu de lumière dans sa chambre.
Вот он отдал ей какую-то свою вещь, я не помню уже.
Часы, по-моему.
Да, часы, точно, отдал часы свои.
Il était venu une première fois déjà la voir, cette usurière, Raskolnikov. Et il lui avait vendu sa montre, il avait donné sa montre, et elle lui avait donné de l'argent contre cette montre. Et il avait regardé où elle avait caché cet argent chez elle. Et elle l'avait caché dans une commode. Il était tellement malade, mais malade dans l'âme. Son âme était tellement malade, il était dans un tel état.
Et Pétersbourg, такой мрачный, ну, вот как-то соответствует.
Vous pouvez d'ailleurs voir dans les descriptions de Saint-Pétersbourg, tout était sombre, tout.
Молодой, ему хочется красиво одеться.
Il était jeune, il était pauvre, il avait envie d'avoir. Il voulait manger, il voulait bien manger, il voulait être habillé correctement.
И он задумал это преступление.
Et c'est pour ça qu'il a pensé, il s'est imaginé ce crime.
Но он не хотел убивать, он просто хотел, как бы там вот описывает Достоевский. Вообще преступление у него занимает всего лишь там одну или две страницы, а все это его душевные переживания.
Mais il voulait pas la tuer. Et d'ailleurs, dans le livre, si vous regardez bien, il y a une ou deux pages qui sont consacrées au meurtre, au crime. Et tout le reste, ce sont ses tourments de son âme.
Вот он приходит сюда. На третьем этаже был ремонт.
Il est venu donc dans cette maison, il est monté ici et au troisième étage, là où nous sommes, c'était en réparation. Ah oui, et comme il y avait des réparations ici, au troisième étage, il s'est dit, ah,
on va peut-être me reconnaître, on va peut-être me voir, on va peut-être faire attention à moi.
Ну и вот, значит, он заходит, звонит дверь. Старуха, значит, открыла дверь, а дверь она на цепочке держала.
Alors, il est arrivé devant la porte, il a sonné. L'usurière, la vieille, elle a ouvert la porte, mais pas complètement parce qu'il y avait une petite chaîne. Juste avant d'aller se rendre à la police, il est tombé à genoux, il s'est mis à genoux, Raskolnikov, sur la place des Foins.
Мимо проходят люди, одна старушка говорит, ишь, бедный, как он напился. Подумали, что он пьяный, а он был не пьяный.
Et là, les gens passaient autour de lui, sur la place des Foins. Et il y a même une vieille qui est passée à côté de lui et qui a dit, mon Dieu, le pauvre, comme il est saoul, il est complètement ivre. Mais il n'était pas du tout ivre.
Он, значит, три раза, ну, перекрестился.
Il s'est signé trois fois, il s'est signé à genoux.
Поцеловал землю.
Il a embrassé la terre.
Опять-таки она влюбилась в этого преступника. Ну, мне жалко ее.
Moi, elle me fait de la peine, Sonia. C'est Sonia qui me touche le plus. Parce qu'elle a un destin qui est tragique. Et en plus, elle tombe amoureuse de ce criminel. C'est Sonia qui me touche le plus.
Там убийца такая девушка, и вдруг такая судьба, что вот влюбилась в преступника, за ним в Сибирь последний.
Vous rendez compte, c'est une jeune fille comme ça, et puis elle tombe amoureuse d'un criminel. Elle le suit en Sibérie.
Даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припомнил теперь это. Но ведь так и должно было быть. Разве не должно теперь все измениться? Он думал о ней. Он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал ее сердце. Вспомнил ее бледное, худенькое личико. Но его почти и не мучили теперь эти воспоминания. Он знал, какую бесконечную любовью искупит он теперь все ее страдания. Да и что такое эти все муки прошлого? Все, даже преступление его, даже приговор и ссылка казались ему теперь в первом порыве каким-то внешним, странным, как бы даже и не с ним случившимся фактом. Он, впрочем, не мог в этот вечер долго и постоянно о чем-нибудь думать, сосредоточиться на чем-нибудь мыслью. Да он ничего бы и не разрешил теперь сознательно, он только чувствовал.
Le garde-chambre s'était détourné. Soudain, et sans que le prisonnier sût comment cela était arrivé, une force invincible le jeta aux pieds de la jeune fille. Il se mit à pleurer en enlaçant ses genoux. Au premier moment, elle fut terriblement effrayée et son visage devint mortellement pâle. Elle bondit sur ses pieds et le regarda en tremblant, mais au même instant, elle comprit tout. Un bonheur infini rayonna dans ses yeux. Elle comprit qu'il l'aimait. Oui, elle n'en pouvait douter. Il l'aimait d'un amour sans bornes. La minute si longtemps attendue était donc arrivée.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Zoé Varier et Daniel Mermet sur les traces de Raskolnikov. Vous pouvez réécouter ce reportage sur le site de Radio France, www.radiofrance.fr, à la rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Eric Mainviel. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyen Duyen, assistée de Charlotte Perry. Et le chef du répondeur, Christophe Imbert, attend impatiemment vos messages au 01 56 40 37 37.